Bonjour Dominique Vrécourt.
Bonjour.
Vous êtes membre du CAF, le club alpin, depuis une quinzaine d'années. Vous avez travaillé à Météo France pendant 25 ans à Tarbes et puis ailleurs auparavant. Et vous allez aujourd'hui nous parler des avalanches. On parle beaucoup d'avalanches depuis le début de la saison hivernale. Alors pas seulement dans les Hautes-Pyrénées, pas seulement dans le massif des Pyrénées d'ailleurs, mais on parle un peu ici ou là d'une série noire d'avalanches. En tous les cas, dans les Hautes-Pyrénées, encore hier. Il y a quelques jours, le risque d'avalanche était toujours marqué à une échelle de 3 sur 5. Alors, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire quand on n'a pas le nez dedans, mais vous allez nous l'expliquer. Avant de voir quels sont les bons comportements pour éviter que ça arrive, on va peut-être se pencher sur tout simplement ce que c'est qu'une avalanche, comment ça se constitue, comment ça se forme. Alors, on pourrait dire que c'est de la neige et beaucoup de neige, mais ça suffit sans doute pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière le mot avalanche ?
Ben, ça suffit pas qu'il y ait beaucoup de neige, mais quand même, il en faut. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de neige, il n'y aura pas d'avalanche. Pour être un peu simpliste, pour qu'il y ait de l'avalanche, il faut qu'il y ait de la neige et une pente. Et c'est vrai que c'est un peu remarquable. La neige, elle tient en montagne quand elle tombe du ciel. Et après, elle a beaucoup de propension, un, à y rester, mais deux, au bout d'un moment, à y descendre d'un seul coup. Quoi.
Parce que ça se tasse ou ça se tasse pas assez, justement ou...
Il y a plusieurs circonstances pour les avalanches. C'est vrai qu'on en parle pas mal, c'est la saison, hein, c'est l'hiver. Donc pas ce week-end, mais le week-end dernier, donc il y a une dizaine de jours, il y a quand même eu 6 morts dans les Alpes avec les avalanches. Donc on en a beaucoup parlé, à juste raison. Et le fait d'en parler, ça, j'espère, a fait prendre conscience à quelques personnes que vraiment c'était particulièrement dangereux à cette époque-là et d'être particulièrement prudent. Alors pour prendre un peu de recul, en moyenne, en hiver, en France, il y a une trentaine de décès par avalanche, Alpes et Pyrénées confondus. C'est monté jusqu'à 58-60, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et le chiffre est assez stable depuis 50 ans que ces chiffres sont suivis.
Et ça, les avalanches, elles peuvent survenir partout ou on peut un petit peu prévoir où ça va arriver?
Quand on regarde la neige sur le dessus, c'est-à-dire quand on est en haut d'une pente en ski, c'est très très dur, quasiment impossible, je pense, de se dire, tiens, là il va y avoir une avalanche, là il n'y aura pas d'avalanche. En fait, ce que l'on voit, c'est le dessus de la neige, et le dessus de la neige, il est souvent très blanc, enfin toujours très blanc, enfin toujours, quelquefois un peu gris. Mais c'est pas le simple aspect visuel de la neige par le dessus qui va nous dire qu'il y a des risques d'avalanche.
Donc même vous qui êtes au club alpin depuis une bonne quinzaine d'années, vous ne sauriez pas dire, attention, là j'y vais pas, il y a une avalanche qui se prépare.
Mais moi qui ai passé 25 ans de ma vie à étudier les avalanches, dessus, je suis incapable de dire qu'il va y avoir avalanche ou pas. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une avalanche ? Enfin, les avalanches, en gros, il y a trois types d'avalanches. Elles reviennent dans les expressions, on les entend. Hein. Les avalanches de poudreuse, ouais. Les avalanches de plaques et les avalanches de neige humide. Les avalanches de poudreuse, elles se produisent pendant la chute de neige.
Ouais.
Donc la neige s'accumule. La neige, qu'est-ce que c'est ? Pour constituer un flocon, la neige, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une étoile avec plein de petites aspérités, donc elle a tendance à s'accrocher partout. On le voit sur les branches des sapins où elle s'accumule, et sur les pentes, elle s'accroche. Mais à partir du moment où il y en a trop, là, 50 cm, 60 cm, voire 1 mètre de neige, voire encore davantage quand il neige beaucoup pendant 2 ou 3 jours, mais d'un seul coup, tout dévale. Ça ne tient plus, il y en a trop. Et là, ça dévale, ça peut faire des dégâts dans les forêts, ça peut, quand il fait très froid et qu'il y a beaucoup de neige à basse altitude, ça peut aller jusque dans les vallées et puis là, atteindre des chalets, voire des maisons. D'ailleurs, l'origine de la prévision du risque d'avalanche et de tous les ouvrages par avalanche que l'on voit maintenant, et typiquement au-dessus de Barège, par exemple, où il y en a beaucoup. Donc toute cette organisation pour la prévention et la prévision du risque d'avalanche date d'un événement particulièrement marquant et meurtrier qui s'est passé en 1970. C'était un hiver très, très neigeux, très froid et très avalancheux dans les Pyrénées et dans les Alpes, et où les plus anciens se souviennent qu'il y a eu une avalanche à Val d'Isère, une avalanche qui est rentrée dans un chalet de l'UCPA et qui a fait 39 morts d'un coup. Et 39 morts, en plus, c'est des jeunes. Donc ça a eu...
Provoque une sidération totale.
Absolument. Ah oui, non, non. Ça... Moi, j'étais gamin à l'époque. Ça avait un retentissement. Je m'en souviens encore. Quoi. J'avais 9 ans. J'avais 9-10 ans. Ça m'avait beaucoup marqué.
Parce qu'une quantité de neige comme ça qui dévale, je ne sais pas quelle quantité peut dévaler d'un coup, mais enfin, c'est comme une vague lors d'un tsunami. Ça, c'est lourd, c'est rapide et rien ne l'arrête.
Oui, c'est lourd, c'est très dense. C'est lourd, c'est très dense, c'est comme une inondation, c'est comme un tsunami. Oui, la neige était rentrée dans le bâtiment. Les volets, les portes, rien n'avait résisté, elle était rentrée.
Tout avait été éjecté. Ça, c'était une avalanche poudreuse.
Les avalanches de poudreuse, c'est quand il neige beaucoup, beaucoup, et jusqu'à basse altitude, donc quand il fait très froid. À part des événements très dramatiques comme celui de Val d'Isère en 1970, ce sont des avalanches qui se produisent pendant les chutes de neige. Donc en général, il n'y a pas grand monde en montagne. Mmh. Et quand elles ne se produisent pas à basse altitude, éventuellement, elles peuvent faire des dégâts aux forêts, mais elles sont à l'origine de très très peu de décès.
Oui.
Ensuite, en deuxième lieu, les avalanches de plaques. Les avalanches de plaques, qu'est-ce que c'est ? C'est la neige qui s'est un peu compactée, un peu, beaucoup ou à peine. Et en fait, la neige reste en place jusqu'à ce qu'on y passe dessus. Un skieur, ça peut être un animal, ou un marcheur, un alpiniste, quelqu'un en raquette, un skieur hors piste.
C'est pas forcément un gros groupe qui piétine.
Ça peut être une seule personne.
Donc il faut pas grand-chose quand même.
Non, parce qu'une fois j'ai fait parce que donc on faisait à Météo France, on fait toujours, hein, plus moi mais mes collègues, on fait la prévision de risque d'avalanche.
Oui.
Mais pour essayer de comprendre au maximum et pour chercher à chaque fois les explications et même parfois pour des enquêtes, on allait sur des lieux où il y avait des avalanches. Et je me souviens d'une fois dans la vallée de la Fruitière au-dessus de Cotteret, on était allé sur un accident d'avalanche où deux personnes avaient déclenché une avalanche et j'avais estimé le volume qui était parti. Il y avait 45 000 mètres cubes de neige qui était parti pour deux personnes. Donc 150 kilos de personnes qui avaient fait partir 45 000 mètres cubes de neige. Voilà. Mmh. Alors, parfois c'est beaucoup plus anodin, hein, ça peut être mètres cubes de neige, mais ça c'était le maximum.
Ouais.
Donc c'est pas en rapport avec le poids de la personne qui la déclenche.
En tous les cas, ça provoque une descente de plaques.
Voilà, donc la neige reste en place la plupart du temps, et c'est quand il y a un skieur, ou par exemple un skieur qui vient passer par-dessus qui la déclenche. Donc là c'est un piège. Et quand je vous ai dit que qu'il y avait en moyenne 30 décès par an par avalanche en France, en très très grande majorité, la plupart du temps, ce sont des avalanches de plaques. Donc, c'est des personnes qui passent sur les avalanches qu'on appelle les avalanches de plaques.
Et donc, en fait, les personnes, elles partent avec la plaque de neige ?
Oui, elles viennent par-dessus et elles partent avec. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, parce qu'on se dit, oulala, mais on va jamais aller en montagne. À chaque fois qu'on va aller en montagne, on va déclencher une plaque et puis on va mourir.
Il n'y a pas des plaques partout non plus.
Un, il n'y a pas des plaques partout. Deux, il n'y a pas des plaques tout le temps. Et par-dessus, on ne sait pas le voir. C'est-à-dire que quand on voit, quand on est au-dessus, on ne saurait pas le dire. Comment ça se fait que dans certains cas, après une chute de neige, il y a des risques d'avalanche de plaques, et un autre jour, il n'y aura pas de risque d'avalanche de plaques ? La neige ne tombe pas de façon continue en montagne. C'est-à-dire, il ne tombe pas en permanence quelques petits centimètres chaque jour.
Oui.
C'est-à-dire, jour, il peut tomber 20 centimètres. Après, pendant 3-4 jours, il ne tombe rien, il fait plus ou moins beau. Après, au bout de 3-4 jours, il retombe 20 ou 30 centimètres. Et puis après, à nouveau, une semaine ou 15 jours après, si on a une période de beau temps un peu longue, il peut retomber 50 centimètres. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'une avalanche de plaques, qu'est-ce que c'est ? C'est à chaque fois une de ces chutes de neige qui partent, intégralement. Celle qui était tombée 8 jours avant, elle reste en place. Mmh. Et celle qui vient de tomber il y a 2 jours, c'est celle-ci qui passe intégralement.
Ah oui.
Et entièrement, en fait, elle est partie.
Parce qu'elle n'a pas eu le temps, de bien tenir sur la neige précédente.
Donc le problème, c'est ça. En fait, c'est l'adhérence entre une chute de neige et la sous-couche précédente.
Fois,
c'est ça. Pourquoi une fois, ça adhère, et pourquoi une autre fois, ça n'adhère pas ? Et donc ça, on ne le voit pas du dessus.
Et non. Alors que ça patine complètement, mais on ne peut pas s'en rendre compte.
Que ça n'adhère pas. Alors, comment on peut le savoir ? En fait, on peut le savoir, et en fait, c'est ce qu'on faisait quand on faisait la prévision de risque d'avalanche, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un œil sur le passé. Et à chaque fois, il faut regarder ce qui se passe, pour savoir comment vont évoluer les risques.
C'est-à-dire que, pardon, je coupe, mais quand Météo France nous dit aujourd'hui, milieu de semaine, le risque d'avalanche est marqué à 3 sur 5, c'est qu'ils ont observé qu'il a neigé, puis un petit peu, enfin plus du tout ou un peu moins, et puis il a reneigé. Donc là, Météo France capable de dire, il y a des plaques qui se sont superposées, et attention, ça glisse.
Le scénario type d'une chute de neige qui va mal adhérer à la précédente, c'est quand il a fait très froid. Parce que quand il fait froid sur la neige, elle a tendance à se transformer, au moins en surface, en un espèce de sucre. Et le sucre, quand on le prend dans la main, les grains de sucre ne tiennent pas entre eux.
Oui.
Et plus il fait froid, plus cette transformation est rapide, et plus ça fait des morceaux de sucre, des grains de sucre qui sont gros. Et donc quand il y a une nouvelle chute par-dessus, elle a du mal à adhérer à la précédente.
Donc ça, c'est vraiment le piège. Donc, les plaques, c'est vraiment...
Voilà, et c'est pour ça qu'il faut avoir un historique du manteau neigeux pour voir s'il y a eu vraiment ces épisodes de froid jusqu'à la nouvelle chute de neige.
Voilà, donc
Donc, ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours pendant ce week-end, donc il y avait une chute de neige juste avant le week-end, et encore avant, il avait fait particulièrement froid. Je ne sais pas si vous en souvenez, il faisait un peu froid en pleine. On n'est plus tellement habitué, là, il avait fait froid en pleine.
Oui.
Si vous avez un citronnier dans le jardin, vous avez remarqué
qu'il
a un peu gelé, il faisait froid.
Il est fichu.
Et en montagne, c'est pareil, il faisait froid. Et donc la neige a perdu de sa cohésion, et donc la chute de neige suivante a eu du mal à adhérer. Et puis, la neige, elle tenait par elle-même, mais elle adhérait pas suffisamment à la précédente. Et puis, donc un surpoids par-dessus, ça suffit à l'entraîner vers le bas.
Voilà, on reparlera en deuxième partie des comportements à adopter et à observer. Mais en tous les cas, ce qu'on entend quand même, c'est que si on observe le manteau neigeux et les épisodes précédents, on peut prévoir, on peut anticiper et on peut à la rigueur se dire qu'on n'y va pas parce que probablement il y a des plaques quand on est un peu averti. On va en reparler en deuxième partie. En tous les cas, vous nous avez parlé de trois sortes d'avalanches. Donc là, c'est la deuxième avec les plaques. La troisième, c'est quoi?
La troisième, c'est en général, c'est à la fin. Traditionnellement, c'est à la fin de l'hiver. C'est les avalanches de neige humide.
Parce que avec le redoux, c'est ça?
Avec le redoux, avec la pluie.
Oui.
Et après, quand la saison avance, c'est simplement avec le soleil. Bon, le soleil et puis le redoux,
ça va ensemble,
ça va de pair. Mais autant un redoux, ça peut concerner toutes les pentes, autant le soleil peut concerner que certaines pentes. Donc les pentes, parce que la montagne a plusieurs versants. Il y a des versants nord qui sont plutôt à l'ombre, des versants sud qui sont plutôt au soleil.
Ça, ce sont ces épisodes-là qui peuvent provoquer aussi les inondations après en pleine, au fond de vallée.
Alors la neige en montagne, on peut estimer que c'est une réserve d'eau. C'est-à-dire, il neige, la neige, elle reste en montagne, et puis au printemps, elle va fondre, et puis ça, elle va alimenter les cours d'eau.
Et oui. Donc ça
si
peut faire
fond,
une très grosse quantité d'eau tout d'un coup.
Ça peut s'ajouter. C'est pas la fonte de la neige elle-même qui va faire des inondations.
D'accord.
Donc, c'est vrai que dans le département, en 2013, il y a eu des inondations ravagé... Le lit du Gave et le lit de la Neste depuis Gavarny jusqu'à Lourdes, voire au-delà. D'ailleurs, il en reste encore des traces. Hein, quand on voit le lit du Gave du côté d'Argelès ou du côté de Luz, on se dit le lit, il est bien, bien large par rapport au Gave.
Et justement, je vous dis ça parce qu'en 2013, on a beaucoup entendu « Ah bah oui, c'est la fonte des neiges. C'est à cause de la fonte des neiges. »
Donc j'ai modéré ça parce qu'en fait, il avait énormément plu. Et la neige a ajouté un peu, mais c'est pas la fonte de la neige qui avait provoqué à elle-même, qui a été la cause principale de la crue. Quoi. Elle y a participé, elle a ajouté.
En tous les cas, ça peut provoquer quand même des avalanches. Est-ce qu'elles sont moins dangereuses, ces avalanches, si la neige est un petit peu moins lourde, un petit peu plus liquide
Elles sont considérablement moins dangereuses.
Oui.
Et elles font, la plupart du temps, elles font aucune victime. Aucune victime, pourquoi? Parce qu'elles se déclenchent spontanément, toutes seules. C'est-à-dire que c'est pas comme une avalanche de plaques où c'est le skieur qui déclenche l'avalanche. Donc, il est dessus. Donc, il va être concerné. Là, l'avalanche de neige humide, elle se déclenche n'importe quand. Donc, la probabilité qu'il y ait quelqu'un dessus ou en dessous est relativement faible parce que là, il n'y a quand même pas des gens partout en montagne, quoi, là.
Donc ça peut faire un peu de dégâts, mais en tous les cas, c'est pas provoqué par l'homme. Donc l'homme est moins exposé directement à ces avalanches-là.
Alors les plus spectaculaires, elles ont pu causer quelques dégâts. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une grosse avalanche de neige humide qui avait percuté des pylônes de remontée mécanique et même la gare de départ. Mais c'était assez...
C'est exceptionnel.
Oui, c'est exceptionnel. Mmh. Ça a même fait le tour des réseaux sociaux parce que... Parce que c'était particulièrement rare. Oui, c'est rare.
Alors, en tous les cas, on a bien compris, Dominique Vercourt, qu'il y a trois sortes de avalanches, que les trois peuvent poser des dégâts, mais que les trois sont quand même bien différentes. Dans un deuxième volet d'émission, on abordera davantage les comportements à risque, les comportements qu'on peut éviter.